Bon, vous serez pas d'accord, et tant mieux, puisque c'est le principe du débat. Venons-en à cette petite phrase, mini-phrase d'Elisabeth Borne, peut-être pas sous l'impulsion, mais en tout cas après la question précise du journaliste de Radio J ce matin, est-ce que le RN, c'est les héritiers de Pétain ? Elisabeth Borne répond oui, c'est les héritiers de Pétain. Qu'est-ce qu'on en pense, William T.
Elle utilise une ficelle qui est un peu grosse. Je crois que c'est il y a 20 ans, j'étais en primaire, si je ne me trompe pas, lors du second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie
Le
Pen.
Nous, on n'était plus avec Jean-Yves. Hein.
Oui, je me rappelle parce que j'étais vraiment en primaire et c'était le type d'argument qu'on disait sur pourquoi est-ce qu'il ne faut pas voter pour Jean-Marie Le Pen. Mm. C'est parce que c'était l'héritier de Pétain. Donc ça me fait penser à ce niveau-là d'argument que j'entendais à l'école primaire. Donc qu'on soit pour ou qu'on soit contre, hein, le Rassemblement National, c'est pas ça la question.
Ça veut dire qu'on est descendu très très bas dans l'échelle de valeur ?
Ah ben, on est au niveau très bas, mais moi je pense que Borne, c'est pas de sa faute, elle est pas dans ce contexte-là, elle est pas à sa place, mais elle a pas le niveau, tout simplement, elle a pas le niveau pour ce poste-là.
Un journaliste vous interroge là-dessus, qu'est-ce que vous répondez ? Enfin, qu'est-ce qu'elle aurait dû répondre ?
Moi, je pense qu'elle aurait dû dire, le Rassemblement National a été créé sur une histoire spécifique, est-ce que Marine Le Pen incarne ou pas cet héritage, son discours officiel n'est pas celui du maréchal Pétain, ni même celui de son père. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle fait une tactique dite éventuellement de taquilla, de camouflage, en vue de conquête du pouvoir ? La question qui est posée sur l'Assemblée nationale est double. Ouais. C'est la question de la crédibilité lorsqu'ils accéderont au pouvoir. Est-ce que c'est de l'affichage ou pas ? On a vu des personnalités, vous avez cité tout à l'heure le score d'Erdogan, qui avait été élu sur l'héritage d'Atatürk et qui mène aujourd'hui la politique la plus islamique du Moyen-Orient, même devant l'Arabie Saoudite. Avec le soutien des frères musulmans. Donc, vous avez des personnes qui changent. Donc, est-ce qu'on est sûr que Marine Le Pen au pouvoir serait la Marine Le Pen du discours ? Et l'autre point qui est porté, c'est sur la question de la compétence. Parce que l'objectif, et ce qu'avait promis le président de la République actuel, Emmanuel Macron, en 2017, c'était de faire baisser le Rassemblement National. Or, vous faites baisser le Rassemblement National en répondant aux préoccupations des électeurs, non pas en disant qu'ils votent mal parce qu'ils sont stupides et qu'ils sont bêtes, ce qui insinue implicitement la déclaration des
électeurs. Jean-Yves Le Borgne.
Je crois, sauf erreur de ma part, que Mme Borne a acquiescé à la question interro-négative du journaliste qui lui demandait « Est-ce que vous ne pensez pas que le Front National soit le prolongement des soutiens du maréchal Pétain ?» Et elle s'est laissée aller à acquiescer à une pensée qu'elle n'a pas formulée elle-même.
Oui, mais ça peut être, voilà.
En revanche, il y a quelque chose qui me paraît intéressant. C'est que, il y a quelques années, on ne parlait du Front National, c'était le Front alors, on ne parlait du Front National que par référence à un certain nombre de propos d'extrême droite assumés qui avaient été lancés dans le débat par Jean-Marie Le Pen. Depuis quelques années, la politique que Marine Le Pen a adoptée, c'est celle de la normalisation, c'est-à-dire au fond, on gomme un peu les origines de la pensée, pour autant qu'il y en ait une, de ce parti, et finalement, l'extrême droite, avec tout ce qu'elle pouvait avoir de scandaleux, que Jean-Marie Le Pen assumait, au point d'ailleurs de se faire ici ou là condamner pour tel ou tel propos. Eh bien, comme si tout cela n'avait pas existé. Et quelque part, peu importe qu'il y ait un lien historique, idéologique, réel ou pas, entre le régime du maréchal Pétain et le Rassemblement National d'aujourd'hui, ce que veut dire cet épisode, c'est qu'au fond, considérer que le Rassemblement National a rompu avec ce qu'était le Front National et un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qui subsistent vaguement encore et qui ont des attitudes
beaucoup
qui
moins
choquent.
Qu'il y a quelques années.
Oui, moins, c'est vrai. Mais qui choquent les Français, je crois que c'est un rappel qui n'est pas inutile et qu'au fond, cette banalisation est peut-être un mensonge.
Ça, on n'en sait rien. Moi, c'est la question que je pose, c'est que pour l'instant, on ne sait pas ce que ferait Marine Le Pen au pouvoir. Parce que les questions que vous avez posées, notamment sur les déclarations choc de Jean-Marie Le Pen, concernaient la politique dite régalienne, les sujets d'immigration, d'intégration, etc. Pour l'instant, on pourrait dire, oui, Marine Le Pen a gagné des élections législatives ou municipales. Mais sur ces sujets-là, c'est difficile de discriminer. C'est difficile de discriminer. Donc en fait, on n'a pas le...
Et j'ajouterais même, William T., on ne sait pas ce qu'elle ferait. Et puis, puisqu'on a parlé des groupuscules d'extrême droite qui existaient il y a une trentaine d'années, notamment dans certaines universités, bah, on ne sait pas s'ils se reconstitueraient pas d'eux-mêmes.
C'est le sujet qui est posé, notamment, on le sait, depuis Donald Trump. Est-ce que Donald Trump...
Sans son aval.
Sans son aval. Est-ce que Donald Trump est quelqu'un d'extrême droite? Non, c'est le candidat du Parti républicain aux États-Unis. Par contre, les conséquences de l'élection de Donald Trump ont fait émerger des groupuscules comme QAnon, des groupuscules qui ont attaqué le Capitole sans son aval. Ça a été démontré par différentes enquêtes. Donc, ce qui se joue, en fait, c'est qu'au-delà de la personne de Marine Le Pen, ce qu'elle incarne, son entourage ou pas, il y a des conséquences à son élection. Et ça, Elisabeth Borne aurait raison de le dénoncer, de l'attaquer. La différence, c'est que lorsque vous êtes Premier ministre et non pas militant de base de La République En Marche, c'est que vous devez avoir un minimum de prestance, de fonction et de hauteur de vue, ce qu'elle n'a pas fait preuve en l'occurrence.
Dernier sujet, il nous reste 4 minutes pour le traiter, donc ça va être court. Darmanin qui tend la main au LR sur le sujet de l'immigration, William T.
Moi, je pense que c'est une bonne idée si Parquet est en capacité réelle de le faire. Le point qui est posé sur Gérald Darmanin, c'est que dans ses intentions, dans ses postures, bah, beaucoup de LR diront que ce sont des impostures, en fait. C'est-à-dire qu'il est capable d'afficher, d'être très fort en apparence, mais que ses réalisations concrètes sont beaucoup plus mesurées. Je pense notamment à ses différents points d'accroche sur à chaque fois qu'il a dit c'est une priorité nationale, sur le trafic de drogue, sur le rodéo, sur la lutte contre la délinquance, la sécurité des biens et des personnes. Les chiffres qui sont réellement sous l'action de Gérald Darmanin sont plutôt faibles. Et est-ce que Gérald Darmanin, quand il dit chiche, a le réel pouvoir de pouvoir répondre à la une du JDD sur la proposition des Républicains? Je ne pense que non, parce que ce n'est pas lui qui décide en fait au gouvernement. C'est Macron et Borne qui sont sur une ligne davantage progressiste que sur de régulation des flux migratoires. Et en plus, à la commission des lois, la commission des lois est tenue
donc
par Sacha Houlier.
Il va en guerre, si j'ose dire,
il va en guerre alors qu'il n'a pas les moyens.
C'est le problème du chef, du commandant.
Et c'est le problème de Darmanin, c'est qu'à chaque fois qu'il part devant, il ne vérifie pas derrière s'il va être suivi, s'il a des troupes,
ça
ou s'il a
suivi. Ça, on le verra.
Ah non, moi je vous le dis, Sacha Houlier sera contre, il l'a déjà dit.
Ce que je crois intéressant, c'est que la réforme du régime des retraites a montré les LR qui soutenaient cette réforme, ça faisait même partie du programme présidentiel de Mme Pécresse, se sont retrouvés, pour une partie d'entre eux, pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'analyser ici, maintenant, mais se sont retrouvés opposés à cette réforme. Et au fond, l'invitation de Gérald Darmanin, elle a un autre sens, c'est de dire, puisque vous êtes d'accord sur la nécessité d'une réforme et d'un certain nombre de mesures qui doivent être prises en matière d'immigration. Comme vous étiez d'accord sur une réforme des retraites, bien que vous ne l'ayez pas véritablement manifesté.
Chaque parti a une proposition de réforme sur ce sujet.
Oui, mais le problème est, nous sommes suffisamment proches pour que nous travaillions ensemble.
Le problème, c'est que Darmanin a rejeté les points les plus importants de la proposition de LR. On peut être pour ou contre la proposition de LR, mais chaque proposition a un sens si elle est updatée dans sa philosophie et dans sa globalité. Le but de LR, dans ce que j'ai lu, c'est reprendre le contrôle. Pour pouvoir reprendre le contrôle des flux migratoires, il faut adopter une sorte de régime de in-out sur le système de l'Union européenne. C'est-à-dire que lorsque vous voulez réguler les flux migratoires, vous avez deux contraintes intérieures et extérieures. Les contraintes intérieures, c'est les différents règlements, les juges qui s'opposent à ça, plus les associations de migrants qui vous obligent à mettre des recours de plus en plus longs. Sur le point de vue extérieur, vous avez la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le regroupement familial, le juge européen qui favorise la liberté de circulation des personnes et le droit à la vie familiale auquel a bénéficié éventuellement Imam Hussein au tribunal de première instance, avant d'être déjugé par le Conseil d'État. Et ensuite, il y a l'autre point, c'est le fait de pouvoir renégocier les traités bilatéraux Tunisie, le Maghreb et l'Algérie. Et si par cas vous refusez ce dernier point, vous ne pouvez pas gérer entre 35 à 45% des flux migratoires. C'est ça l'essentiel. Donc si vous refusez de vous enlever tout ça, il va s'occuper de 10% des flux. Ça ne sert à rien.
Mais non, on peut souligner les divergences, les difficultés à constituer une synthèse. Mais je trouve qu'il est logique que Gérald Darmanin, qui vient des Républicains et qui sait qu'il y a sur un certain nombre de sujets des proximités, invite en quelque sorte les Républicains à ne pas être dans une sorte d'opposition factice sur le plan du fond, mais qui n'aurait d'autre sens que de faire exister une opinion distincte de la proposition gouvernementale. Alors, après qu'il y ait des difficultés d'harmonisation, de synthèse entre les deux projets, je dirais, c'est une autre histoire. Mais il y a une légitimité à ce que celui qui est le plus marqué LR dans le gouvernement d'Elisabeth Borne appelle ses anciens compagnons de parti oui. en leur disant même sans, nous avons une proximité.
Même sans demander la permission au chef.
Ça, ni vous ni moi ne savons si ça a été fait.
Ouais, on connaît pourtant, vous et moi, les chaînes de commandement. Donc, oui. vous voyez, c'est, c'est moi, parfois un peu difficile.
Oh, merci. Cela étant, oui. Imaginez que le chef en question ait refusé un rapprochement avec les LR, ça me paraît peu probable.
Merci Jean-Yves Le Borne, merci à vous William T. Europe Soir se poursuit jusqu'à 20h. Dans un instant, le journal de 19h, juste après, nous parlerons Simenon, cette bande dessinée d'après le roman de Simenon, Le Passager du Polaris. Et puis à 19h30, votre confrère, ancien confrère, Emmanuel Pierrat, qui signe La Prison de Verre, sexe, argent et politique. À quel point les personnalités connues, qu'elles soient dans la politique ou ailleurs, doivent marcher sur des œufs, sur leur image, faire attention à ce qu'ils disent. Voilà, tout est scruté et pas seulement par les réseaux sociaux. On en parle avec lui dans un instant. Le journal de 19h, à tout de suite.